et je suis à la cathédrale de Strasbourg, où l'horloge astronomique vient de sonner l'heure, mais surtout s'apprête dans 30 minutes, à 12h30 précisément, à offrir son ballet d'automates unique au monde à la foule de spectateurs qui commence déjà à s'amasser dans le croisillon sud de l'édifice. Cela fait presque 700 ans qu'il y a une horloge dans cette cathédrale, qui fête en 2024 ses 848 ans, et dont Victor Hugo dira qu'elle est un prodige du gigantesque et du délicat. Peu de gens savent en revanche l'histoire des horloges qui ont précédé l'horloge actuelle. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui passe par les langues latines, allemandes et françaises, des textes conservés à la Bibliothèque nationale de Strasbourg, par des objets exposés au Musée des arts décoratifs de Strasbourg et inévitablement par tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la cathédrale et de la ville. Notre guide est Delphine Viellard, professeure agrégée de lettres classiques au lycée Henri Meck de Molsheim, qui a réuni autour d'elle une équipe de spécialistes en horlogerie, en textes latins, en histoire régionale et en astronomie locale, ainsi que les élèves avec lesquels elle et sa collègue Sonia Cady ont travaillé à l'explication d'une description en latin de l'horloge ayant précédé dans la cathédrale celle que l'on entend aujourd'hui. Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Bonjour Delphine Viellard.
Bonjour.
Merci de nous accueillir à Strasbourg. L'horloge astronomique de la cathédrale dont on va parler aujourd'hui est un élément emblématique de la ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement son histoire ?
Alors, l'horloge que vous avez devant vous n'est pas l'horloge d'origine. L'horloge d'origine a été construite au milieu du XIVe siècle et on sait qu'elle était en face de celle que vous avez actuellement devant vous. Elle était appelée l'horloge des trois mages car les trois mages défilaient toutes les heures. Malheureusement, cette horloge est tombée en panne au début du XVIe siècle et pour la gloire de la ville, on a immédiatement envisagé d'en construire une nouvelle. Cette construction a été d'autant plus envisagée que la ville est devenue protestante et qu'on voulait absolument coller à l'actualité en faisant une horloge qui prenait en compte les découvertes scientifiques. Et pour cela, on a chargé un scientifique qui s'appelle Conrad d'Asipodus de la construire.
D'accord, donc l'horloge qu'on voit aujourd'hui, alors, de quand date-t-elle ?
Alors, l'horloge que vous voyez aujourd'hui est la troisième horloge. Elle a été restaurée par Jean-Baptiste Schulguet, qui est un Alsacien strasbourgeois et qui, quand il était petit, une dizaine d'années, voyait cette horloge en panne et ça le navrait. Et il a promis à son père de faire les études nécessaires pour pouvoir rénover cette horloge, ce qui est effectivement arrivé. Et depuis 1842, qu'il a eu fini de la rénover, il n'est plus jamais tombé en panne. Oh oh.
Quelle heure peux-tu bien être ? Ah, il est l'heure de se coucher. Je fais déjà des rêves, Pinocchio.
Alors revenons à cette deuxième horloge qui vous intéresse particulièrement, celle construite donc par Conrad d'Asipodus. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce Conrad d'Asipodus ?
Alors, Conrad d'Asipodus est d'origine suisse et c'est son père qui est venu à Strasbourg parce que c'était un proche de Jean Sturm. Jean Sturm qui a donc fondé une école dans le centre de Strasbourg qui existe toujours, qui est maintenant le gymnase protestant. Et donc le père est venu pour enseigner le grec. Son fils a fait des études scientifiques et il était lui-même professeur de mathématiques. Et quand il a fallu concevoir cette nouvelle horloge, la municipalité strasbourgeoise lui a demandé donc de faire cette horloge. Et lui-même, ensuite, a organisé un chantier tout autour de lui. Il a demandé à des frères horlogers, les frères Abrecht, de l'aider. Un peintre qui s'appelle Tobias Stimmer de lui faire les croquis. Et il a aussi demandé à un architecte, Hans-Thomas Hulberger, de pouvoir aussi contribuer à cette horloge. Ils ont mis un an à la construire on ne connaît pas les noms des sculpteurs.
Alors la reconnaissance de Conrad d'Asipodius comme le maître d'œuvre de cette horloge n'a pas été toujours évidente.
Effectivement, il le dit à certaines reprises, son nom est souvent oublié. On trouve les noms des horlogers, les frères Abrecht dont j'ai parlé, le nom du peintre, Tobias Stimmer, mais rien de lui n'apparaît parfois dans les gravures. Et il a eu de cesse de répéter que c'était lui qui était à l'origine de cette horloge et que sans lui, les horlogers n'auraient rien pu faire et n'auraient pas pu construire cette horloge.
On va essayer de comprendre davantage le contexte dans lequel un tel chef-d'œuvre a pu apparaître. Et pour ça, on va se tourner vers Nathan Dumoulin, étudiant en histoire à la Faculté des sciences historiques de Strasbourg, passionné d'histoire moderne de l'Alsace et qui travaille en ce moment même sur une carte du Strasbourg du XVIe siècle. Bonjour Nathan Dumoulin.
Bonjour.
Ce n'est peut-être pas un hasard si la ville de Strasbourg commande à d'Asipodius une horloge astronomique au mi-temps du XVIe siècle. Beaucoup de changements politiques, économiques, sociaux, culturels sont en train de se jouer à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous aider à les imaginer ?
Alors effectivement, il faut bien s'imaginer que le Strasbourg de cette époque n'a absolument rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. La ville connaît un essor économique important grâce à la viticulture et à des personnages dont le savoir-faire économique est important. Et cet essor contribue notamment à renforcer, appuyer un essor culturel important dont témoigne l'horloge astronomique. Et plus que cet essor culturel, il y a aussi un essor politique. La ville de Strasbourg est un centre politique européen important. Et à cette époque-là, se doter d'une horloge pour la ville est un enjeu de prestige. Notamment depuis qu'elle est passée à la Réforme, l'horloge astronomique constitue une sorte de vitrine du savoir-faire de l'humanisme strasbourgeois et des intellectuels protestants.
Vous parlez de Strasbourg comme une ville importante politiquement à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous aider à nous représenter cet espace politique ? Est-ce qu'il s'agit du Saint-Empire romain germanique ? Est-ce qu'il s'agit de l'espace rhénan ? Il y a différents espaces qui sont là, auxquels on n'est plus trop habitué aujourd'hui dans le Strasbourg de la France métropolitaine.
Effectivement, le Strasbourg de l'époque, de même que toute l'Alsace, était tourné vers l'Allemagne, vers ce qu'on appelait alors le Saint-Empire romain germanique. Et elle entretenait, depuis le Moyen-Âge, de très bonnes relations et de toute nature, économique, politique et culturelle, avec les villes de l'espace rhénan, Mayence, Cologne, jusqu'aux villes suisses, Bâle, Fribourg, les villes du Haut-Rhin, Colmar, etc. Il faut replacer l'Alsace et Strasbourg dans cet espace rhénan, mais aussi dans l'espace politique qu'est le Saint-Empire, puisque elle est aussi touchée par les évolutions que connaît cet espace, notamment la Réforme et les conflits autour de cette Réforme.
Alors, en quoi est-ce qu'une horloge, qui a priori est un outil rationnel, un instrument, peut malgré tout manifester des changements de cette nature ?
Bien, en fait, c'est précisément en raison de sa nature d'outil. L'horloge, c'est un mécanisme très complexe qui participe d'un mouvement plus large de sécularisation du temps en mesurant de manière exacte le temps dans la journée.
Alors sécularisation, pour nos auditeurs, c'est le processus par lequel on s'extrait d'une vision religieuse, en l'occurrence d'une vision religieuse du temps.
Oui, il faut bien préciser que jusqu'au XIVe siècle et jusqu'au XVIe siècle pour le cas strasbourgeois, le temps était aux mains de l'Église. On retrouve dans les romans de Chrétien de Troyes ou dans les textes du Moyen-Âge ce qu'on appelle les heures canoniales, qui sont en fait des heures dites inégales, parce qu'elles sont basées sur la sensation que l'on a du temps. Les heures ne sont pas mesurées de manière exacte, elles sont annoncées par le clocher de l'église qui sonne toutes les heures, et fatalement varient en fonction des saisons. Donc ça peut paraître bizarre pour nos auditeurs de savoir qu'à cette époque, une heure pouvait changer de durée en fonction de la période de l'année.
Effectivement, la relativité du temps n'a pas attendu Einstein. Elle était déjà là à l'époque de Chrétien de Troyes, d'une certaine façon. Alors, parlez-nous un peu plus de ce temps sécularisé, de ce temps mesuré scientifiquement.
Comme je l'ai dit juste avant, le temps était aux mains de l'Église. C'était l'Église qui, avec son clocher, mesurait le temps et donc dictait la vie des fidèles. En mesurant très exactement le temps, l'horloge astronomique permet de s'affranchir de ce temps de l'Église et elle permet d'obtenir une perception plus exacte du temps, ce pourquoi Jacques Le Goff parle de temps des marchands, du passage du temps de l'Église au temps des marchands, parce que ce temps plus exact, plus rationnel et davantage conforme aux ambitions et aux besoins de cette nouvelle classe que sont les marchands, que de l'Église. Et donc l'Église perd de son poids avec l'inauguration de cette horloge astronomique, si je puis dire.
Nous sommes au lycée Henri Meck de Molsheim avec Delphine Viellard et certains de ses élèves de première et de terminale en latin. C'est un texte assez original que vous avez décidé de lire et de traduire pour faire parler l'horloge, puisqu'il s'agit d'une brochure qui était destinée à en faire la promotion. Comment l'avez-vous trouvée et pourquoi l'avoir choisie ?
En fait, ça a été mon premier contact avec l'horloge astronomique. J'ai connu Fritschlin avant de connaître Dasybodus. Daniel Bornemann, qui est conservateur à la BNU de Strasbourg, à qui j'avais demandé de l'aide, m'a indiqué ce document. J'étais très intriguée. C'est une brochure publicitaire avant la lettre. Nous l'ouvrons. Elle est repliée en quatre. Et à sa gauche, un texte apparaît en latin, avec un titre, Vera effigies ac descriptio astronomici horologii argentinensis in sumo templo extructi. Et deux initiales, NEF. Donc, ça signifie la vraie description de l'horloge astronomique de Strasbourg, et érigée dans la très haute église.
Alors ça, c'est ce qui se trouve à la gauche de la brochure, mais il y a aussi un centre et une droite de cette brochure. Elle est très fournie. Pour un non-connaisseur, c'est assez difficile de s'y repérer.
Voilà, alors au milieu, c'est un texte en français, anonyme, et malgré toutes mes recherches, il restera anonyme. Le titre est assez proche de la traduction du texte de Frischlin. Il s'agit de la description exacte de l'horloge de l'église cathédrale de Strasbourg. Ce texte est en ancien français, en français de la Renaissance, et il ne nécessite pas de traduction.
Mais peut-être une adaptation. D'ailleurs, voilà. Je crois que vous avez travaillé avec l'une de vos élèves, ici présente, Marie, pour l'adapter en français contemporain.
Exactement. Marie a travaillé de longues heures pour adapter ce texte en français, lui trouver une harmonie et adapter aussi une ponctuation moderne. À droite, un texte en allemand, en gothique, donc difficilement lisible. Un nom d'auteur a été ajouté, il n'est pas d'origine. C'est Johannes Fischart, qui est un humaniste allemand, notamment traducteur du Gargantua de Rabelais. En traduction, c'est la description du nouvel ouvrage d'art astronomique de Strasbourg de la cathédrale, colorié par Konrad d'Asibodius, David Falkenstein et Isaac Abrecht, et peint par Tobias Stimmer. Et les textes 1 et 3 sont datés 1574, l'année même de l'inauguration de l'horloge astronomique.
Alors je crois que Aitzin, ici présente, a travaillé sur ce texte allemand. Est-ce que tu accepterais de nous lire le titre en allemand de cette brochure ?
Eingeintliche Fürbildung und Beschreibung des neuen künstlichen astronomischen Uhrwerkes zu Strasbourg im Münster. Jahr vollendet zu sehen Johannes Fischart.
Vous parlez allemand ?
Oui, je parle allemand, oui.
C'est un allemand qui vous parle aussi ?
Oui.
Oui, donc la différence n'est pas si grande entre l'allemand contemporain et cet allemand-là ?
Alors oui, avec le titre, on n'a pas une grande différence, mais avec le texte, on remarque cette différence.
Est-ce que vous avez quelques exemples de différence ? À quel niveau elle se situe ? Des mots qui sont plus utilisés ? Une syntaxe qui est différente ?
Alors oui, elle est très poétique et on a une formulation assez belle, mais... Enfin, par rapport à aujourd'hui, c'est quand même difficile à comprendre.
Et alors Marie, vous avez travaillé sur le texte français anonyme du milieu. Est-ce que vous vous êtes facilement repérée dans cette adaptation ou quelles ont été les difficultés ?
Au début, c'était compliqué parce que vu que je ne connaissais pas du tout le français de la Renaissance, c'était parfois difficile de reconnaître certains mots. Il y a beaucoup de lettres qui changent, des mots comme cette horloge, avant c'était au masculin et maintenant c'est au féminin. Donc fallait vraiment faire un travail de saisie et de reconnaissance des mots comme aujourd'hui. Et il fallait corriger les majuscules ou certaines lettres, par exemple les Y qui devenaient des I ou même parfois des S et les F qui devenaient des S.
Oui, les F sont des S en réalité, oui. Doivent être prononcés comme des S. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire le début du texte anonyme en ancien français ?
Cette horloge est si particulière qu'il a toujours été l'admiration de tous les peuples. L'art et la capacité de son auteur y brillent avec éclat, et les plus savants hommes y trouvent de quoi satisfaire leur curiosité. Pour en donner une idée parfaite, j'expliquerai toutes ces parties. Tout l'ouvrage est enfermé d'un grillage de fer, environ 5 ou 6 pieds, pour empêcher le peuple d'y toucher. Il y a dans l'enceinte de la dite grille, au pied de l'horloge, un globe céleste qui, paroît être porté sur le dos d'un pélican, il représente la rondeur entière du ciel et marque tous les cercles et lignes célestes avec le cours du soleil et de la lune qui font toutes les 24 heures le tour du globe.
Alors on a une illustration parfaite de l'ambiguïté du français de la Renaissance, puisque entre fond et son, eh bien, les deux sont possibles. Et oui, simplement, là, il est écrit, si on lit littéralement, il est écrit « fond ». Et comme le F peut être aussi le S, oui, eh bien, il y a le contexte qui nous donne la réponse.
Oui, il y a le contexte qui joue beaucoup, parce que parfois les lettres restent les mêmes, mais dans d'autres contextes, il faut les changer. Mmh. Et c'est vraiment ça qui était un peu plus compliqué, c'était de savoir dans ce contexte, quelle lettre il fallait mettre, s'il fallait la remplacer ou non, s'il fallait mettre un pluriel ou s'il fallait laisser le singulier ou s'il fallait enlever la majuscule ou la laisser.
Ça vous a demandé beaucoup de travail ?
Oui, beaucoup.
Une journée entière ?
Je dirais au moins 6 heures. Le temps de bien faire les recherches, de bien trouver la ponctuation, de me relire plusieurs fois pour être sûr que c'était correct.
Mmh. Ma félicitation pour ce travail. Merci. Je reviens vers vous, Delphine Viellard. Est-ce que vous avez épuisé le commentaire de cette brochure ou vous auriez d'autres éléments à nous donner avant qu'on passe à la traduction du texte latin ?
Alors justement, la brochure, pour ce qui est du texte latin, est mystérieuse puisqu'on avait simplement N et F comme nom d'auteur. Et donc, en faisant des recherches, j'ai trouvé que N et F étaient les initiales de Nicodemus Frischlin, un humaniste allemand. En poursuivant ma lecture, je me suis rendu compte que le texte était très fragmentaire, très peu clair, et qu'il énumérait les parties de l'horloge très rapidement. En réalité, je me suis aperçu que c'était un centon. C'est-à-dire que le poème d'origine est un poème de 1800 vers, dont ont été prélevés certains vers pour arriver à une description résumée de l'horloge, puisque nous avons devant nous un texte de 80 vers. Et donc, Frischlin est un humaniste allemand qui n'est pas simplement un poète, c'est un satiriste et c'est aussi un auteur de théâtre avec un homme qui a eu un destin absolument fabuleux qui est présenté dans le dossier Odysseum.
Très bien, ça donnera envie à nos auditeurs d'aller le lire. Maintenant, il est temps de se pencher sur le texte latin parce que, vous le savez, aux Humanités dans le texte, on met un point d'honneur à toujours lire et écouter le latin. Nous allons donc entendre Camille et Nanmaël qui vont alternativement lire le texte latin et la traduction française.
Urbs antiqua jacet primiculuere trepaces tripoques argentoratum ripis contermina reni.
Ici, c'est en une ville antique, habitée en premier par les triboques, argentoratum, proche des villes du Rhin.
Ac templum augustum caelitaque turis in urbe.
Dans cette ville se dresse un temple auguste et une tour sculptée.
Uerticue prospiciens alto mirabile visu surgit et excelsum caput inter nubila condit.
Qui regarde au loin du haut de son faîte, miracle de la vue, et cache sa tête élevée dans les nuages.
Iamque adeo nuper foribus qua proxima templi stant adita ostrinis socia testune concta.
Et là où, tout près de la porte sud du temple, se trouvent tous les renfoncements à côté de la cour.
Excelso fabricam possuerunt pariete muri.
On installa une machine contre la partie supérieure du mur.
Primus, humin intens penis se ostentat et alis explicitis.
D'abord, sur le sol, glorieux de ses plumes et de ses ailes déployées,
diroque ferit sua viscera rostro et gerit impositum pelicanus tergore caelum.
Se donna à voir un pélican, et de son terrible bec, il se frappe la poitrine. Il porte le ciel placé sur son dos.
Ecepulos et pictamanu nova sidera caeli.
Voici l'épaule, et peint à la main, le nouvel astre du ciel.
Signiferumque orbem stellis fulgentibus aptum.
Ainsi que le zodiaque avec les étoiles qui brillent.
Omnia quae tacito sensim labentia cursu.
Tout cela glisse insensiblement d'une course silencieuse et fait le tour en 24 heures.
Merci Nanmaël et Camille pour cette belle lecture. Malheureusement, la traduction n'éclaircit pas complètement la compréhension du texte. Il reste certains termes qui demandent un éclairage supplémentaire. En particulier, le peuple des triboques, cette idée d'un temple auguste. On aimerait savoir ce que cherche à dire Frischlin par là. Delphine Viellard, aidez-nous à mieux nous y retrouver.
Les Tribok sont un peuple germanique ou celte du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est évoqué par Jules César, Strabon et Tacite. Le nouveau nom de Strasbourg est indiqué, c'est Argentoratum. Fréchy en indique l'emplacement géographique en faisant un emprunt à Ovide, en disant qu'elle est proche des rives du Rhin, en prenant le texte d'Ovide qui parlait des rives du Tibre, évidemment. Alors, expression très intéressante chez Frischlin, cette expression de « Templum Augustum ». On sait bien que « Templum » est réservé à un édifice païen. Mais, comme l'église est protestante, je pense que Frischlin a pris ce mot-là pour bien montrer que ce n'était pas une église catholique. En tout cas, chez aucun auteur latin, on trouve l'expression « Templum Augustum ». Et de plus ici, c'est le superlatif que l'on trouve chez Pline l'Ancien, mais jamais à Augustum Templum. Je pense aussi que l'auteur veut accentuer la grandeur de cette cathédrale en utilisant des expressions comme Proprisco et Alto, Caput inter nubila condit, en disant que le temple sort des nuages. Et puis, il faudrait remarquer aussi l'emploi du mot fabrica, qui n'est pas choisi au hasard, puisqu'il est de la famille de Faber, et Faber, c'est le mot qui désigne Dieu en tant qu'artisan créateur de l'univers, et donc l'horloge serait une sorte de création divine.
Merci Delphine Viellard pour ces éclairages. Ainsi se termine le premier épisode de ce podcast consacré à la deuxième horloge astronomique de Strasbourg, celle dont la conception a été coordonnée par Conrad d'Asipodius et dont le mystérieux Nicolas Frischlin a rédigé la partie latine de la brochure. Merci à tous les élèves de Delphine Viellard qui ont apporté leur contribution à la compréhension du contexte historique pour Nathan Dumoulin, de la traduction du titre allemand de la brochure pour Aishin Chakmak, de la transcription de l'ancien français pour Marie Muller, et de la lecture du texte latin et de la traduction française pour Nanmaël Charrier-Benoît et Camille Fischer. Tout au long de cet épisode, vous avez pu entendre de nombreux accompagnements musicaux, tantôt en toile de fond, tantôt en intermède. Il est temps maintenant de leur rendre justice. C'était donc par ordre d'apparition un extrait du dessin animé de Walt Disney Pinocchio dans sa version de 1972, un choral de Martin Luther, Num Com der Heiden Island pour orgue et bombarde, interprété par Jean-Michel Allais et Jean-Pierre Roland. Un peu plus loin, pendant l'allemande de la suite numéro 15 pour clavecin, extraite du manuscrit de Strasbourg du plus cosmopolite des compositeurs baroques, Johann Jakob Froberger, c'est le claveciniste allemand Rémi Lüger qui est au clavier. Vous aurez peut-être reconnu ensuite la partita numéro 2 de Bach sous les doigts du pianiste russe Grigori Sokolov dans un enregistrement de 1975. Plus loin, quelques mesures de The Graphicos, un morceau de la bande originale d'Indiana Jones composé par John Williams. Et enfin, c'est John Dowland et la viole de gamme de Jordi Savall qui accompagnent les lectures de la brochure en français et en latin avec les pièces Lacrimae Antiquae et Semper Dowland, Semper Dolens. On se retrouve dans 2 semaines pour la diffusion de la deuxième partie de ce podcast, toujours présenté par Émile Gayouzo, responsabilité scientifique en Cadane, et il est temps de se quitter avec le dernier intermède musical, qui n'est autre que notre générique de fin, Les Dédales, de Carole Beffa.